Deutsche Welle. Droits et libertés.
Nous ne voulons pas que des déchets radioactifs soient enfouis chez nous. Voilà comment on peut résumer le combat de longue haleine de militants écologistes dans le village de Bure, dans l'est de la France. Et puis, l'humanité n'a pas attendu les dirigeants américains pour dresser des murs aux frontières. Nous parlons de celui qui existe déjà en partie au Kenya pour éviter l'entrée de terroristes somaliens. Au micro, Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. L'ambiance dans les champs qui entourent la commune de Bure est celle d'un joyeux foutoir. Avant, Bure était un village endormi avec ses 90 habitants. Maintenant, des militants écologistes qui ont élu domicile ici se préparent à reconstruire une cabane pour remplacer celle détruite par la police au mois de février. Le 22 février, plus exactement, près de 500 fonctionnaires des forces de l'ordre sont venus pour évacuer par surprise la poignée de militants qui s'entêtent à occuper les lieux, en l'occurrence le bois Le Juc, pour manifester leur désaccord avec le projet gouvernemental d'enfouissement des déchets les plus radioactifs du parc français, à Bure donc. La tension a monté ces derniers temps, plusieurs échauffourées ont eu lieu, mais le bras de fer remonte à plusieurs décennies maintenant entre les habitants et les écologistes d'un côté et les pouvoirs publics de l'autre.
Rien qu'au niveau du bois, en fait, à venir à des nombres complètement délirants pour venir massacrer nos lieux de vie, pour venir les détruire, détruire sans ménagement tout ce qu'on a créé.
Les déchets nucléaires posent problème en France, qui a décidé de s'alimenter à 70% en énergie par le biais de ses 58 centrales. Une façon pour le gouvernement, depuis De Gaulle, d'assurer son autonomie énergétique en ne dépendant pas, comme l'Allemagne par exemple, de livraisons de gaz russe ou du pétrole des pays de l'OPEP. En 1998, l'Agence française des déchets nucléaires, l'ANDRA, a créé un laboratoire destiné à explorer le sous-sol de Bure. Son objectif étant de déterminer si le site avait les prédispositions requises pour accueillir les déchets nucléaires. À terme, 80 000 tonnes cubes de déchets hautement radioactifs doivent être enfouis à 500 mètres de profondeur, sans que les scientifiques ne puissent déterminer avec certitude l'impact de cet enfouissement sur les sols et les populations alentours pour des dizaines de milliers d'années. Frédéric Pla, directeur de recherche à l'ANDRA.
On mène effectivement depuis plus de 25 ans des études sur la faisabilité du stockage profond. Nous avons mené donc de travaux pour caractériser le site, caractériser la couche argileuse, déterminer ses propriétés, s'assurer que ses propriétés étaient capables de confiner la radioactivité.
Depuis le début de la mobilisation, les recours judiciaires se sont multipliés pour repousser le début des travaux. Mais pour Bertrand Plancher, député UDI de la Meuse, le département de Bure, il n'y a aucune inquiétude sanitaire à avoir.
C'est le meilleur projet en termes de sécurité pour des déchets dont il faut tenir compte. Et qu'enfin, les élus ont obtenu satisfaction suite aux débats publics qui ont déjà été lancés sur cette affaire. La première loi faisant le choix de stocker des déchets nucléaires a entériné le principe de la réversibilité des déchets pendant un siècle, c'est-à-dire qu'on a une capacité d'aller rechercher les déchets si par hasard ça permet de renforcer la sécurité s'il y avait un problème, ce qui fait qu'en termes de stockage, les risques sont absolument nuls pour les générations futures.
Réversibilité, vous l'avez entendu ce mot-clé. La loi française prévoit que les déchets stockés en sous-sol puissent être enlevés du site d'ici un siècle en cas de dangerosité imprévue par exemple, mais aussi et surtout en cas d'avancée scientifique qui permettrait d'avoir une meilleure solution de traitement des déchets. Comme l'explique Nicolas Mazouki, qui est spécialiste en énergie à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris, le but n'est pas d'enterrer les déchets pour les oublier. Pour l'heure, la plupart des scientifiques conviennent qu'il vaut mieux enfouir les déchets nucléaires plutôt que de les stocker en surface où ils risquent d'être dégradés par les éléments naturels ou être la cible d'attaques terroristes. Mais dans les faits, personne n'a envie de vivre avec ce genre de déchets hautement radioactifs dans les parages. C'est d'ailleurs pour cela que les autorités choisissent des lieux d'enfouissement reculés, comme Bure. Depuis 1991, le gouvernement français s'appuie sur une loi qui prévoit que les régions qui accueillent des déchets radioactifs bénéficient d'une aide de l'État. Deux communes proches de Bure reçoivent ainsi 30 millions d'euros chacune chaque année, une somme considérable pour des communes rurales peu peuplées. Sauf que la répression brutale de la mobilisation citoyenne fait douter à beaucoup de défenseurs de l'environnement, comme le réseau Sortir du nucléaire, que les pouvoirs publics aient vraiment le bien commun et seulement le bien commun en tête dans ce dossier épineux.
Moi, je suis dans le combat et j'ai vu arriver les choses depuis 25 ans. Il s'agit d'éradiquer tous les mouvements, de neutraliser le territoire, de le nettoyer. Il n'y aura plus de paysans et puis l'Andra aura la main pour faire ce qu'elle veut sur le territoire.
On y va ! On se rassemble !
Devant mon poste de télé, je les vois me raconter des salades. Disent que la Terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète. J'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité.
L'un des murs qui a fait le plus couler d'encre au monde est sans doute celui construit à la frontière sud des États-Unis pour empêcher les migrants sud-américains de rentrer sur le territoire de l'oncle Sam. Mais saviez-vous qu'il existe aussi une construction de séparation entre le Kenya et la Somalie? Le projet a été décidé suite à l'attentat à l'université de Garissa pour empêcher aux terroristes d'Al-Shabaab de pénétrer au Kenya. 3 ans plus tard, l'idée de mur s'est commuée en barrière de sécurité. Et sur les 700 km prévus au départ, seuls 8 km ont été terminés en bordure de la ville de Mandara, à l'extrême nord du Kenya. Et les habitants ne sont pas ravis. Le marché de Mandara ressemble à tous les autres marchés. Les étals regorgent de vêtements, de chaussures, de soupes en sachet, de marmites et de casseroles. Jamal, lui, vend de la vaisselle.
Presque tout vient de Somalie ici. 90% de nos produits, on dépend de la Somalie.
Mandara est situé tout près de la frontière avec la Somalie. Le poste frontière est à 2 pas du marché, mais pour l'heure, personne ne l'a jamais emprunté.
En ce moment, la frontière est ouverte. Nous avons un âne avec lequel nous allons chercher les produits en Somalie. Même notre nourriture, elle vient de l'autre côté de la frontière. Nous n'avons rien en provenance du Kenya.
Le gouvernement kényan veut mettre un terme à ces ventes transfrontalières qui échappent à toute taxe. Le Kenya veut rendre la frontière avec la Somalie hermétique en érigeant donc une barrière sur 700 km. Le coût de ce projet pharaonique est estimé à 1,4 milliard de dollars.
Our border is really porous.
Notre frontière est poreuse. Nous avons ce problème sans fin du terrorisme ici aussi dans notre région. Nous ne fermons plus l'œil. La barrière va nous sécuriser.
Peu d'habitants de Mandara partagent l'avis de Mohamed Abdi Sani. Pour l'instant, à peine 8 km de barrière sont terminés. deux rangées de pylônes en béton tendus de grillage. Entre, des fils barbelés à hauteur d'homme et à côté, une fosse de 3 mètres de profondeur pour empêcher le passage des véhicules. Une réalisation qui emplit Mohamed Saleh de fierté. C'est lui qui est responsable de la sécurité dans la région.
This is meant to secure the county of Mandera.
Cette construction est destinée à sécuriser le district de Mandera qui a été longtemps la cible de graves attaques terroristes. La population nous a dit qu'il n'y avait plus eu d'attaque depuis que ces 8 km ont été terminés.
There's no more attack in Mandera town.
Peu importe si en réalité il suffit de couper les fils à l'aide d'une pince pour passer, vu que la zone n'est pas constamment surveillée. D'ailleurs, l'un des anciens de la ville, Hassan, estime que la barrière n'a réussi qu'à augmenter la défiance entre les gens de part et d'autre, alors que côté kényan comme côté somalien, tous appartiennent à l'ethnie des Somalis.
Je me suis marié de ce côté de la frontière. Ma famille vit de l'autre côté. Est-ce que je peux accepter qu'une barrière soit construite entre nous ? Si ma belle-mère venait à mourir, je ne pourrais même pas me rendre là-bas.
À moins de passer par le seul poste frontière de la zone, les enfants devront alors montrer leur passeport à chaque passage pour aller à l'école et rentrer après les cours. Les éleveurs nomades à la recherche de pâturage devront faire passer leurs troupeaux par l'ouverture exiguë et devant des douaniers armés jusqu'aux dents. Une honte pour Hassan.
Les terroristes ont gagné. Si nous avons tellement peur que nous construisons une barrière, nous nous avons vaincus. Ils ont atteint leur but. J'espère que ce projet va échouer et être abandonné. Je ne crois d'ailleurs pas qu'ils termineront un jour cette barrière.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Linda Staude et Claire Rouge pour les sons. Écrivez-nous à français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine.